Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 31 janvier 2023. En direct de Washington, Idrissa Seboudia. Pour commencer les titres, le pape François commence aujourd'hui une visite en République démocratique du Congo. Au Burkina Faso, deux nouvelles attaques meurtrières dans l'Ouest et dans le Sahel. En Tunisie, 11,4% de participation aux législatives. Le président Kais Saied minore l'importance d'un tel chiffre. Au Libéria, le président George Weah, l'ancien ballon d'or, annonce sa candidature à sa réélection. À Jérusalem, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken presse israélien et palestinien à un retour au calme. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Le pape François entame aujourd'hui un voyage en République démocratique du Congo, puis au Soudan du Sud. Il arrive ce mardi à Kinshasa, où son avion doit atterrir à 15 heures locales, soit 14 heures GMT. Des millions de Congolais l'attendent dans un pays où l'Église catholique a souvent joué un rôle de premier plan, Mohamed Houmfa.
Le pape François arrive à Kinshasa et va plaider l'urgence de la paix alors que l'est de la RDC est miné par l'insécurité. Parmi les thématiques attendues figurent le défi du réchauffement climatique et la déforestation, l'éducation, les problématiques sociales et sanitaires et le soutien à la communauté chrétienne, a précisé le porte-parole du Saint-Siège, Matteo Bruni. Il va prononcer 12 discours et rencontrera, outre les autorités, des victimes de violences, des personnes déplacées, des membres du clergé et des représentants d'œuvres caritatives. Initialement prévue en juillet 2022, cette visite a été reportée en raison des douleurs au genou du pape de 86 ans qui se déplace en chaise roulante. L'étape à Goma a finalement été supprimée, mais le pape recevra à Kinshasa des représentants venus de l'est de la RDC. Le pape se rendra ensuite du 3 au 5 février à Juba, capitale du Soudan du Sud, dernière étape de son séjour africain.
À noter que des militants congolais et étrangers ont appelé hier à Kinshasa le pape François à se prononcer et sanctionner un prêtre accusé d'abus sexuels sur une mineure en RDC. Par vidéoconférence, une jeune fille, Marie, a affirmé avoir été violée en mars 2020 par un prêtre du diocèse de Tchoumbé, dans le centre de la RDC, alors qu'elle était âgée de 14 ans et aspirante à la vie religieuse. Marie a déclaré avoir dénoncé l'affaire auprès des autorités de l'Église du Congo sans obtenir gain de cause. « Depuis, je vis dans l'insécurité, tout mon entourage est menacé », a-t-elle dit. Une source ecclésiale, sous couvert d'anonymat, a expliqué que le Saint-Siège avait envoyé des enquêteurs. L'abbé accusé a été suspendu et l'affaire portée devant la justice congolaise qui a innocenté le prêtre, selon la même source. Au Burkina Faso, au moins 28 personnes ont été tuées dans deux attaques distinctes. La première attaque dans la région des Cascades, dans l'ouest du pays, a fait 15 morts. Et la deuxième, à Falangoutou, dans le Sahel, a quant à elle fait 13 morts, dont 10 gendarmes. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Il s'agit là de deux attaques entre dimanche et lundi. L'attaque d'hier, selon l'armée, a fait 13 morts à Falangoutou, dans le Séno, région du Sahel. On dénombre 10 gendarmes, 2 supplétifs de l'armée et un civil tué. Au moins 5 gendarmes ont été blessés, une dizaine d'autres toujours recherchés, affirme l'armée, poursuivant qu'une quinzaine de corps de présumés terroristes ont été retrouvés lors des opérations de ratissage qui sont toujours en cours. Dans l'attaque de dimanche soir, dans l'ouest du pays, deux mini-cars en provenance de Banfora ont été interceptés dans le village de Lingekoro par des hommes armés. Selon le gouverneur, ce lundi, les passagers composés de 8 femmes et de 16 hommes ont été débarqués des 10 mini-cars. Le communiqué confirme la mort de 15 personnes dans cette attaque à Lingekoro sur l'axe Banfora-Mangodara. Au nom du gouvernement, le gouverneur de la région des Cascades exprime sa compassion et sa solidarité aux familles éprouvées, explique le gouverneur, invitant la population à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Plusieurs bases du groupe djihadiste ISWAP, État islamique en Afrique de l'Ouest, ont été pilonnées en fin de semaine dernière dans la région du lac Tchad par des forces du Nigeria, du Niger, du Cameroun et du Tchad, avec l'appui d'un drone américain, a-t-on appris ce lundi de sources militaires. Cette opération spéciale de bombardement a été décidée après qu'une cinquantaine de terroristes ont été observés dans cette région les 27 et 28 janvier. Et a été menée essentiellement par des soldats nigériens avec l'appui d'un drone des partenaires américains, indique un communiqué de la force multinationale mixte rassemblant les armées des quatre pays. Au Nigeria, une foule de jeunes en colère à cause de la grave pénurie actuelle de billets de banque a provoqué hier une émeute à Kano, plus grande ville du Nord, où le président Muhammadu Buhari était en visite. En octobre dernier, le gouvernement a annoncé, sans prévenir, changer les billets de banque, notamment leur couleur, et décidé que les anciens billets ne seraient plus valables à partir du 31 janvier. À quelques jours de la date fatidique, très peu de banques ne distribuaient les nouveaux billets, laissant les Nigérians, dont la majorité vit dans la pauvreté et dépend de l'économie informelle, sans liquide et donc sans argent. Le président du Liberia, George Weah, 56 ans, a annoncé ce lundi qu'il briguerait un deuxième mandat consécutif à la tête de son pays lors de l'élection prévue en octobre. Monsieur Weah, seul ballon d'or africain à ce jour, avait accédé au pouvoir en janvier 2018 après avoir été élu au second tour de la présidentielle de décembre 2017. Monsieur Weah a défendu son bilan, mais ses détracteurs lui reprochent de n'avoir tenu que très peu de ses promesses. En Tunisie, à peine 11,4% des électeurs ont participé au second tour des législatives, a indiqué ce lundi le Conseil électoral dans un chiffre définitif. Le vote à deux tours, qui s'est terminé dimanche, a vu la participation la plus faible depuis la révolution de 2011. Le point avec Nathalie Barge.
Sur plus de 7,8 millions d'électeurs inscrits, seuls 895 000 se sont rendus aux urnes dimanche, a déclaré Farouk Bouasker, président du conseil électoral de l'instance supérieure indépendante pour les élections. C'est une légère augmentation par rapport au taux de 11,3% initialement annoncé. Il a précisé que 67,6% des votants sont des hommes. Selon les experts, les Tunisiens, aux prises avec un taux de chômage élevé, l'inflation et des pénuries de produits de base, ont perdu tout intérêt pour la politique. Lisier a annoncé les premiers résultats pour les 161 sièges du futur Parlement, mais la signification de ces résultats n'est pas claire car les candidats n'étaient pas autorisés à se présenter en fonction de leur affiliation à un parti politique. La nouvelle législature comprendra aussi un Conseil national des régions, mais les détails sur la manière dont il sera composé ne sont pas encore connus. La constitution de l'année dernière, adoptée avec un taux de participation de 30,5%, rend pratiquement impossible au Parlement de demander des comptes au gouvernement et le président ne peut en aucun cas être destitué.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a pressé lundi Israéliens et Palestiniens à agir urgemment pour restaurer le calme sur fond d'une nouvelle spirale de violence meurtrière que les appels internationaux à la retenue ne sont pas jusqu'à l'heure parvenus à apaiser. Eric Manerakidza.
Nous exhortons toutes les parties à prendre des mesures urgentes pour un retour au calme et une désescalade, a déclaré M. Blinken à Jérusalem lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il en va de la responsabilité de chacun de prendre des mesures pour apaiser les tensions plutôt que de les attiser. M. Blinken a dit vouloir rétablir un sentiment de sécurité pour les Israéliens comme pour les Palestiniens, qui bien sûr fait cruellement défaut. Ce mardi, il va s'entretenir notamment avec le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à Ramallah, en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. La visite du chef de la diplomatie américaine, deuxième étape d'une tournée Moyen-Orientale et Claire, ayant débuté dimanche en Égypte, était prévu de longue date, mais a pris une tournure différente avec la flambée de violence israélo-palestinienne des derniers jours.
Le président américain Joe Biden a opposé ce lundi un refus catégorique à l'idée d'envoyer des avions de combat américains de type F-16 à l'Ukraine, dont la liste d'aides en armement s'allonge pour chasser les forces russes de son territoire occupé. Au Pakistan, l'explosion survenue dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar, dans le nord-ouest du pays, a fait 83 morts, ont indiqué mardi les responsables hospitaliers dans un nouveau bilan. Minute Éco, Mohamedou Houmfa.
Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a appelé samedi à prendre de toute urgence des mesures appropriées pour réaliser les objectifs de la ZLECA, la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECA est un projet de zone de libre-échange en cours de création qui élimine les droits de douane sur 90% des biens produits sur le continent, s'attaque aux obstacles non tarifaires au commerce et garantit la libre circulation des personnes en Afrique. L'Organisation des producteurs de pétrole africain invite ses États membres à prendre en compte la menace que représente la transition énergétique pour ses économies. Selon l'Organisation panafricaine basée à Brazzaville, les conditions posées en vue d'une transition énergétique ne sont pas adaptées au continent africain où 900 millions de personnes n'ont pas accès au gaz domestique et plus de 600 millions vivent sans accès à l'électricité. La Tunisie peut être une plateforme pour l'exportation d'énergie vers l'Europe, a déclaré samedi le président du Conseil tuniso-africain des affaires lors d'un point de presse. La position stratégique de la Tunisie et sa proximité avec l'Italie et certains pays africains riches en énergie, comme la Libye, l'Algérie et le Nigeria, permettront à ce pays maghrébin d'être la bonne voie énergétique entre ces pays, a-t-il expliqué.
Merci Mohamedou. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Football pour commencer, les demi-finales du CHAN en Algérie 2022 se jouent ce soir.
Oui, la première demi-finale oppose le Niger au pays organisateur l'Algérie. Coup d'envoi 15h temps universel. Le MENA local qui est à sa quatrième participation aura fort à faire devant les Algériens qui pourront compter sur leur public local très bouillant. N'empêche, les Nigériens rêvent d'une première finale dans cette compétition. Idem pour Madagascar, qui a été sensationnel jusqu'ici pour une première participation à une phase finale du CHAN. Les barrières locaux font face au Sénégal à 19h, temps universel, dans la deuxième demi-finale.
Pap Gueye prêté à Séville.
Le milieu de terrain sénégalais de Marseille rejoint le club espagnol du FC Séville. Selon l'OM, le joueur est prêté jusqu'à la fin de la saison. Le club marseillais ne donne pas plus de détails, mais plusieurs médias affirment que ce prêt est sans option d'achat. Pap Gueye, qui est âgé de 24 ans, est arrivé à l'OM en juillet 2020. Il y a disputé 100 matchs sans totalement s'imposer comme titulaire. Avec sa sélection, il a participé à la dernière Coupe du Monde au Qatar et a été sacré champion d'Afrique l'année dernière. À Séville, actuellement 13e de Liga, il retrouvera l'entraîneur argentin José Sampaoli, qui l'a coaché pendant 18 mois à l'OM.
L'audit sur la Fédération française de foot bientôt bouclé.
Un comportement au minimum sexiste, une légitimité perdue au sommet du football français et des dysfonctionnements majeurs dans la gouvernance. C'est ce qui ressort du rapport provisoire de la mission d'audit sur la Fédération française de football qui accable son président Noël Le Graët. Diligenté par le ministère des Sports, ce pré-rapport considère, je cite, que compte tenu de son comportement envers les femmes, ses déclarations publiques et les défaillances de la gouvernance de la 3F, M. Le Graët ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Fin de citation. Noël Le Graët a été mis en retrait de la Fédération française de football depuis le 11 janvier et sa directrice générale Florence Ardouin mise à pied depuis la même date. Le Graët dément toutes les accusations de harcèlement sexuel fustigeant ces derniers jours, ce qu'il qualifie d'une enquête administrative manifestement à charge. La Fédération française de football est gérée par intérim par le vice-président Philippe Diallo.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le pape François entame à partir d'aujourd'hui une visite de 3 jours en République démocratique du Congo. Eddy Issango a joint dans la capitale congolaise le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa.
Le peuple congolais attend l'arrivée de sa sainteté le pape François avec impatience, avec enthousiasme et surtout avec espérance. Et cela par rapport à la situation que le peuple congolais est en train de vivre. Le pape vient visiter un pays pratiquement en guerre. Il vient à la rencontre d'un peuple qui souffre de conflits armés, notamment à l'Est, avec des guerres à répétition, beaucoup de morts, beaucoup de nos frères et sœurs qui sont jetés dans la rue comme des animaux traqués. La crise économique qui fait que le Congolais ne mange pas sa faim. La crise sociale avec tout ce que cela comporte comme conflits entre les personnes, etc. Donc le pape vient trouver ce peuple dans cette situation-là et son message, comme le thème de sa visite l'a si bien indiqué, tous réconciliés en Jésus-Christ. Le peuple attend de cette visite que ça puisse vraiment l'aider à se réconcilier avec Dieu, à se réconcilier avec lui-même, avec ses frères et sœurs.
Le pape ne va pas dans l'Est selon le programme qui a été publié, mais c'est plutôt dans l'Est qu'il y a plus de souffrances avec la guerre. Est-ce que c'est seulement pour des raisons sécuritaires qu'il n'y va pas ou il y a autre chose? Ou va-t-il trouver un palliatif pour le peuple de Dieu, les Congolais qui sont plutôt dans l'Est de la RDC?
La raison est principalement sécuritaire. Alors devant cette situation qui a créé beaucoup de désespoir dans le peuple à l'Est qui attendait vraiment cette visite du pape à Goma, les organisateurs ont prévu la venue à Kinshasa d'une délégation, et il y a une délégation qui vient de Bunia, de Beni, de Goma, de Bukavu et de Uvira, qui va rencontrer le pape au nom de tous nos frères et sœurs à l'Est qui souffrent. Et ils exprimeront leur situation au pape, qui a aussi prévu un mot à leur endroit.
Les voyages du pape en RDC s'effectuent dans une année électorale en RDC. C'est en décembre qu'on aura les élections présidentielles, législatives et les autres. Que répondez-vous à ceux qui pensent que ça va servir aux fins politiques des uns et des autres?
Ce n'est pas ça la finalité. Le pape ne vient pas pour cette raison-là politique, même si ça profite à ceux qui sont au pouvoir, mais le pape vient à la rencontre du peuple congolais, tout le peuple congolais, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et il vient le rencontrer dans leur situation de souffrance. Voilà pourquoi nous estimons que cette visite pourrait être un moment d'encouragement et de réconfort moral et spirituel pour un peuple qui souffre. Que ce message du pape puisse nous aider à bien organiser ces élections pour que ce soit des élections apaisées, des élections transparentes, des élections crédibles, des élections inclusives, afin que le meilleur puisse gagner et se mettre résolument au service du peuple congolais qui en a le.
Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Burkina Faso, l'un des plus grands marchés du pays, celui de Sankar-Yaré, a été incendié dimanche. Plusieurs centaines de boutiques sont parties dans les flammes. Les mobiles de l'incendie ne sont pas encore connus, mais déjà on pointe du doigt des explosifs utilisés dans les mines. Le gouvernement a promis l'ouverture d'une enquête. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Le gouvernement a déploré l'incendie du marché de Sankariaré dans l'arrondissement numéro 2 de la commune de Ouagadougou, l'un des plus grands marchés de la ville. Selon les premières informations, peu avant 11h dimanche matin, des explosions en provenance du marché ont été entendues, suivies d'un départ de feu, explique les communiqués du gouvernement. La suite a été un constat de désolation d'après Serge Poda, ministre du Commerce.
Près de 40% du marché incendié, beaucoup de pertes de marchandises. C'est un moment aussi pour nous d'interpeller les différents acteurs de ce marché à beaucoup plus donc de civisme. Il y a parfois des produits qui sont interdits à des stockages artisanaux, mais que des acteurs se permettent et se lancent dans cette situation donc de commercialisation de produits qui ne sont pas autorisés dans un marché de ce type.
Une délégation gouvernementale s'est rendue sur place ce lundi. Le lieutenant-colonel Daba Naon, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers, explique.
À l'arrivée des premiers engins, nous avons pu constater effectivement qu'une partie du marché, notamment la partie centrale, il y avait des fumées qui se dégageaient dû à l'explosion qui a eu lieu. Et vu la rapidité avec laquelle le feu s'est développé, la moitié du marché, qui compte environ 700 à 800 boutiques, a donc subi la propagation de l'incendie. Au regard donc du sens du vent, il y a beaucoup de dégâts matériels. Ceci est dû effectivement au fait que c'est un dimanche, le marché était fermé et il n'y avait pas d'affluence.
Le gouvernement a salué la promptitude de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, des autres forces de défense et de sécurité et de toutes les personnes de bonne volonté dont la mobilisation immédiate a permis de sécuriser le site et maîtriser l'incendie aux environs de 14h40. Ce commerçant salue le travail des pompiers.
Les flammes ravageaient avec une certaine intensité qui dépassait la force des soldats de feu. Mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont pu nous aider. Vraiment, nous leur disons merci.
Les autorités affirment qu'aucune perte en vie humaine ni de blessés n'a été enregistrée. L'incendie a cependant causé d'importants dégâts avec plusieurs centaines de boutiques parties en fumée. Un autre commerçant affirme qu'il y avait des stocks de produits explosifs utilisés dans l'exploitation des mines au sein du marché.
C'est qui a commencé ça? C'est ceux qui vendent le produit là. C'est le truc là qui est calé là-bas. C'est ça qui a provoqué le problème du marché. De l'or là ou bien quoi là, ce qu'on fait les mille là, c'est ça. Parce qu'il y en a ça dans les marchés en pareil.
Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'enquêtes par les services compétents pour déterminer les causes de ce drame et situer le cas échéant toutes les responsabilités. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
En Tunisie, le Front de Salut National, une coalition d'opposants, appelle à former un front uni politique et syndical pour faire partir le président Kais Saied après le deuxième tour des législatives de dimanche, marqué par un taux d'abstention record. Yacouba Ouedraogo a joint à Tunis Mourad Selami, journaliste indépendant.
Pour comprendre ce taux, il faut comprendre un peu l'évolution de la chose politique en Tunisie. En 2011, ils étaient 51% à voter. En 2014, ça a déjà reculé un peu à 38%. En 2019, on sent que les citoyens commencent à rejeter les échéances politiques. Le taux de participation était déjà à 29%. Et le 25 juillet 2022, pour la vote de la nouvelle constitution, ben il y avait aussi 28 ou 29%. Pour le décembre 2022 et janvier 2023, ben le taux a chuté carrément à 11%. C'est l'une des symptômes du rejet de la variante parlementaire de ce nouveau régime. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, le fait qu'une bonne partie de la classe politique a boycotté ces échéances électorales. Et la troisième, c'est qu'il n'y a pas de financement. Pour les élections de 2011, 14 et 19, il y avait des financements publics.
Ce n'est donc pas un désaveu pour le président Kais Saied.
Le vote en faveur du président Kais Saied en 2019, il faut comprendre en deux temps. Le premier temps, lors du premier tour, il n'avait obtenu que 19%. Lorsqu'il a été élu au deuxième tour avec 77% des voix, c'est plutôt un rejet de l'autre candidat plutôt que qu'un vote en faveur de Raïs Saïd. Raïs Saïd n'a jamais eu de programme électoral. Il y a eu aussi une inscription automatique des électeurs. Du coup, les 11%, c'est par rapport à un nombre plus élevé de votants.
Il y a un front du salut national qui est né, qui regroupe certains partis politiques d'opposition, qui appellent d'autres partis politiques d'opposition, ainsi que la société civile et la puissante centrale syndicale UGTT, à faire un front uni donc pour faire partir le président Kais Saïd. À quoi faut-il s'attendre dans les jours à venir en Tunisie?
Si on devait s'attendre à quelque chose en Tunisie, c'était lors des festivités du 14 janvier, marquant le 12e anniversaire de la Révolution. Les Tunisiens s'attendaient à des manifestations. Ce front de salut disait qu'il allait renverser le président. On n'espère pas une solution de la part du front de salut. La proposition de l'UGTT avec les avocats et la Ligue des droits de l'homme et le Forum économique et social, ça c'est une proposition socio-économique. Là, c'est la société civile. Donc, ils ont eux aussi écarté les partis. Mais est-ce qu'ils ont vraiment le poids suffisant pour contraindre le président à accepter leur proposition? Honnêtement, je ne vois pas.
Mourad Selami, journaliste indépendant.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les appels à la réforme de la police se multiplient après que 5 policiers de Memphis dans le Tennessee ont été filmés en train de battre un homme qui est mort 3 jours plus tard. Il n'y a pas encore de consensus parmi les législateurs américains sur la façon d'empêcher davantage de bavures policières. Véronica Balderas Iglesias de la VOA fait le point. Le récit est de Michel Joseph.
Le 7 janvier, 5 policiers, tous africains-américains, ont voulu arrêter, après une infraction routière, Tyree Nichols, un africain-américain de 29 ans. D'après les vidéos de son arrestation rendue publique vendredi, les agents l'ont d'abord arrêté et violenté. On entend la voix de Nichols sur la vidéo en train de crier en appelant sa mère. Puis il s'est enfui, mais est rattrapé plus tard. Les policiers l'ont roué de coups. Hospitalisé, Tyree Nichols est mort 3 jours plus tard. Les 5 agents inculpés ont été licenciés la semaine dernière. Comment aller de l'avant après la mort de Nichols? C'est ce que les militants et législateurs américains tentent de déterminer. Lors de son passage à l'émission This Week sur ABC, l'avocat de la famille, Ben Crump, a souligné la nécessité de s'attaquer à ce qu'il appelle un préjugé implicite dans la culture policière aux États-Unis.
I believe it's part of the institutionalized police culture.
Peu importe que les officiers soient noirs, hispaniques ou blancs, je crois que cela fait partie de la culture policière institutionnalisée qui fait qu'ils se sentent en quelque sorte autorisés à utiliser ce type de force excessive et de brutalité contre des personnes de couleur.
Lors de l'évaluation des mesures concrètes pour prévenir la brutalité policière, le sénateur démocrate Dick Durbin a déclaré à ABC qu'un débat national est nécessaire.
Interdire les étranglements, traiter de l'interdiction des fouilles sans mandat, traiter de l'accréditation des services de police. Il est nécessaire que nous fassions toutes ces choses, mais ce n'est pas suffisant.
Tout en soulignant que tous les policiers ne sont pas à blâmer, le représentant républicain Jim Jordan a partagé son point de vue dans l'émission Meet the Press de NBC sur les appels à la réforme de la police au niveau fédéral.
J'ignore si une formation ou une interdiction quelconque aurait pu... Il n'y a pas eu d'étranglement à Memphis. Ce qu'ils ont fait là-bas, c'est juste continuer à battre M. Nichols. Donc je ne sais pas si c'est la réponse.
Interviewé sur Good Morning America, Derek Johnson, le président de la NRACP, la plus ancienne et la plus grande organisation de défense des droits civiques du pays, a proposé de trouver des approches différentes pour régler le problème. Il a ajouté que la mise en place d'une base de données fédérale où sont enregistrées les bavures policières pourrait également empêcher les agents de changer d'agence et ainsi contribuer à faire la différence. L'affaire trouve un écho particulier dans un pays fortement marqué par la mort de George Floyd en mai 2020 et les manifestations Black Lives Matter contre le racisme et les violences policières qui avaient suivi.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seludia, à la mise en onde, Lionel Runaniragahima, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute.